Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la mort de Clément Méric, militant antifasciste. Nous sommes en 2013. La France sort tout juste de plusieurs mois de débats acharnés autour du mariage pour tous. Éreintant, le climat s'apaise doucement alors que l'été approche. Mais à la sortie d'une vente privée dans le quartier des grands magasins parisiens, une rencontre entre militants d'extrême gauche et d'extrême droite tourne mal. Clément Méric, 18 ans, succombe au coup porté par son agresseur, sympathisant de groupuscules nationalistes. L'affaire éclate immédiatement dans les médias. La mort de Clément Méric est-elle politique? La réponse est très clairement oui. Devenue depuis l'un des symboles des mouvements antifascistes, la mort de Clément Méric permet de questionner profondément la France sur son paysage politique et notamment, quelle place faut-il laisser au groupe d'extrême droite? Notre invité aujourd'hui, Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste des mouvements d'extrême droite et directeur de l'Observatoire des radicalités. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Dobré, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Juin 2013, quartier Saint-Lazare à Paris. La rue est animée en ce mercredi après-midi. Les passants flânent sur les trottoirs ensoleillés, chargés de sacs de grands magasins. Dans un appartement de la rue Comartin, de nombreux jeunes se pressent pour la vente privée d'une marque anglaise de polo. Cette marque de vêtements de tennis, née dans les années 50, s'est refait une jeunesse et séduit de plus en plus de jeunes branchés à Paris et ailleurs. Mais son public traditionnel lui reste fidèle. Skinhead de droite comme de gauche apprécie toujours son élégance, sa simplicité. Depuis les années 70, ce polo au col bordé d'un liseré de couleur fait partie de l'uniforme de ces mouvements radicaux. Parmi ces jeunes gens politisés, certains ont reçu une invitation pour venir profiter des réductions sur la nouvelle collection. Mathias, Steve et Aurélien, trois militants antifascistes, s'y sont donc donné rendez-vous. Au milieu des polos, des pulls, des baskets et des blousons, ils se promènent et font leur choix. Un peu plus loin, dans la boutique, un autre groupe fait son apparition. Il s'appelle Samuel, Alexandre et Lydia. Crâne rasé, bombers flanqués d'un écusson tricolore, t-shirt aux inscriptions explicites telles que « Blood and Honor » ou « White Power »,« Sang et honneur » et « Pouvoir blanc ». Les trois amis ne laissent aucune place au doute quant à leurs idées politiques. Pour les militants antifascistes, leur présence est une provocation. Et Steve ne se retient pas et lance. Alors, les nazis ont fait ses courses? Prenez pas trop d'affaires, va falloir courir, on vous attend en bas. L'altercation ne passe pas inaperçue aux yeux du vigile qui tente de dissuader les deux groupes de se battre. Mais il est trop tard. Vers 18h, Steve, Mathieu et Aurélien quittent la boutique. Dans les rayons, les trois skinheads sortent leur téléphone pour appeler du renfort. Ils appellent leur amie Katia, qui passe le message à son petit ami Esteban, sympathisant comme eux de Troisième Voie, un groupuscule d'extrême droite, plutôt baraqué, l'homme comme le groupuscule, il travaille comme agent de sécurité. Dans la rue, les antifas appellent leurs copains pour leur raconter la rencontre et se postent à quelques dizaines de mètres de la boutique en attendant le départ des skins. Selon leur dire, ils ne sont plus très sûrs de vouloir en découdre. Mais ils préfèrent rester à proximité. Un de leurs amis, en effet, Clément Méric, ayant prévu de faire un tour dans le magasin, il vaut mieux le protéger. Après avoir visité la boutique, Clément retrouve ses amis de l'autre côté de la rue. À 18h40, les skinheads quittent la salle de vente. En sortant, ils aperçoivent les antifas postés devant une église et ils se dirigent vers eux. À 18h43 et 25 secondes, un premier coup part. À 18h43 et 31 secondes, Clément Méric est à terre, le visage en sang.
France Inter. France Inter.
Il avait 18 ans, c'était un jeune homme brillant intellectuellement et très engagé à gauche dans de multiples causes. C'était, comme disent certains à Sciences Po, où il était élève, un antifa. Comprenez, un antifasciste. Clément Méric, agressé hier en fin d'après-midi rue Comartin à Paris par un groupe de skinheads, est très rapidement tombé en mort cérébrale. S'est éteint cet après-midi à la Salpêtrière.
Il n'aura fallu que 7 secondes pour que la bagarre devienne mortelle. Deux coups de poing, droit sur l'arête du nez. Malgré son 1m80, Clément Méric est un garçon chétif. En rémission d'une leucémie, il n'a pas encore retrouvé ses forces. Engagé à gauche depuis ses 15 ans, c'est dans le Verbe qu'il mène son combat politique. À Sciences Po, ses camarades lui reconnaissent ses talents d'orateur, au lycée aussi. Bon élève, il a eu son bac S avec mention très bien et n'a pas eu de difficulté à intégrer la grande école parisienne. À son arrivée à Paris, il s'est tout de suite engagé auprès de Solidaires étudiantes, un syndicat étudiant très ancré à gauche, puis à Action antifasciste, Paris banlieue, une association de lutte contre l'extrême droite. C'est là aussi qu'il s'est découvert une passion nouvelle pour le foot et surtout pour le club Red Star de Saint-Ouen, historiquement antifa. Avec son décès, c'est toute la communauté antifasciste parisienne et française qui est en deuil. Immédiatement après l'agression, les téléphones sonnent, on prévient les camarades, l'un des leurs est tombé. Au même moment, à l'intérieur du local, le nom que porte le repère des militants d'extrême droite dans le 15e arrondissement de Paris, l'atmosphère est lourde. Samuel, Esteban, Alexandre, Lydia et Katia y ont trouvé refuge et prennent conseil auprès de l'un de leurs leaders, Serge Ayoub. À l'abri derrière les vitres teintées, ils mettent en place leur stratégie. Hors de question de se cacher, ça ne ferait qu'empirer la situation, non. Serge Ayoub est clair, il faut qu'il se rende et plaide la légitime défense. Il faut qu'il se trouve un avocat aussi. Pour le reste, c'est lui qui s'en occupe. Vers 21h, tout est réglé, le local s'est vidé. Seuls Serge et Esteban sont encore là, attablés, pour discuter de la marche à suivre. Le téléphone d'Esteban sonne, c'est un message de son ami Samuel. J'ai du sang sur mon bon mœurs, mais c'est le mien. Tu peux demander à Serge si je dois nettoyer ? Dès le lendemain de l'agression, l'opération de communication se met en marche. Serge Ayoub est dans tous les médias pour tenter de faire diversion. Son but, dédouaner les deux groupes dont il a la responsabilité, Troisième Voie et les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires.
C'est absolument faux. Ce ne sont en aucun cas des membres des Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires qui sont impliqués dans ce malheur. Par contre, les agresseurs sont les jeunes d'extrême gauche qui ont attendu dans un véritable guet-apens trois jeunes hommes qui avaient le malheur d'avoir des cheveux trop courts ou un blouson d'une mauvaise marque. Et ces trois jeunes hommes qui n'ont jamais été condamnés, qui ont 20 ans, qui sont des travailleurs, qui ont des emplois, ont été obligés de se défendre et sont partis le plus rapidement possible pour fuir les problèmes. Un jeune homme qui, je crois et j'ai cru comprendre, faisait des études à Sciences Po, qui avait un avenir devant lui, s'est retrouvé embrigadé. Il perd la vie. J'ai une pensée pour ses parents.
Serge Ayoub est à la tête des deux grands groupes nationalistes, Troisième Voie et les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires. Il est un vétéran du milieu. Ancien hooligan, il tient son surnom Batskin de son talent à manier la batte de baseball pendant les bagarres. En 2010, il refonde Troisième Voie et parvient à recruter quelques centaines de militants dans toute la France. Les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires comptent, quant à elles, plusieurs dizaines de membres et assurent le service d'ordre. Se disent à la fois solidaristes et national-révolutionnaires. Deux idéologies héritées de la tradition nazie et qui ont pour but d'édifier une Europe blanche, unitaire, d'élite, débarrassée du capitalisme libéral et du communisme égalitariste, ce qu'ils appellent donc la Troisième Voie. Le mouvement avait été fondé une première fois dans les années 80, puis dissous une dizaine d'années plus tard, avant d'être réactivé par Serge Ayoub. Nicolas Lebourg, politologue, spécialiste de l'extrême droite, en expliquait les fondements sur France Inter.
C'est un mouvement justement nationaliste révolutionnaire, c'est-à-dire un fascisme qui se ressource par ses aspects socialisants, par une volonté subversive. Il s'agit de sortir de l'imagerie réactionnaire de l'extrême droite pour avoir une extrême droite qui porte des valeurs contraires au système libéral profondément, qui se veut anti-impérialiste, socialisante. Et les JNR dont il est question là, vous savez, c'est en référence au GNR, au groupe nationaliste révolutionnaire qu'animait François Duprat dans les années 70 quand il était numéro 2 du Front National à la lisière du FN et qui justement est une entreprise cherchant un fascisme pour la seconde moitié du XXe siècle. La qualité des JNR, ces jeunesses nationalistes révolutionnaires, quand elles ont été fondées une première fois en 1987, c'était justement d'arriver à encadrer, à former, à donner une voix politique à des jeunes gens qui n'étaient pas tellement socialisés. Cette jeunesse Skinhead qui l'a rentrée en politique, c'était des jeunes gens des classes populaires, souvent mal structurés, et justement il s'agissait de leur expliquer que leur colère pouvait avoir une forme politique.
En cette année 2013, ces deux groupes, comme la GUD, groupe Union Défense et l'œuvre française, aussi ancrés dans la tradition nationaliste, réapparaissent sur le devant de la scène à l'occasion des manifestations contre le mariage pour tous. Les mois précédant la mort de Clément Méric, les agressions racistes et homophobes ont augmenté en France et sont parfois le fait de groupes de skinhead. L'association SOS Homophobie dénonçait une augmentation de 78% des actes homophobes en 2013. D'ailleurs, Clément s'était particulièrement mobilisé pendant cette période pour défendre la loi face à la manif pour tous. L'important pour Serge Ayoub, c'est donc de faire le moins de vagues possible, de transformer le drame en acte isolé. Sinon, c'est l'image de tout le mouvement qui risque d'être marqué au fer rouge par cette affaire et gâcher un contexte qu'il juge favorable médiatiquement. Mais les échanges téléphoniques entre les skinheads et Serge Ayoub le prouveront. Ils se connaissent bien et se sont parlé avant et après l'affrontement. Juin 2013, 10h du matin, rue Saint-Guillaume à Paris. Devant les locaux de Sciences Po, l'ambiance et les visages sont graves. Plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés pour rendre hommage à leurs camarades agressés la veille. À cette heure-là, l'annonce de la mort de Clément n'a pas encore été faite, mais son état laisse peu d'espoir. Progressivement, les étudiants et amis de Clément sont rejoints par une foule de politiciens, de journalistes et de camarades antifa. Peu avant midi, la rue est noire de monde. La police a coupé l'accès aux voitures. Et dans cette artère huppée du quartier de Saint-Germain, des prés règne un silence pesant. Mais la présence des représentants de partis politiques ne plaît guère aux étudiants, surtout en période de campagne pour les élections municipales. Hors de question que leur malheur soit récupéré à des fins électorales. Alors, après avoir fait reculer les écharpes tricolores et les caméras, le chant des partisans commence à résonner entre les murs de la rue Saint-Guillaume. Suivront plusieurs slogans antifascistes et l'international. L'émotion est forte, la tristesse côtoie la colère. Car les étudiants n'oublient pas la dimension hautement symbolique des conditions de la mort de Clément, tué lors d'un affrontement avec des néo-nazis. Sa mort est politique, comme le répètent les étudiants et camarades de Clément interrogés dans ce reportage réalisé par France 2 devant les locaux de Sciences Po à Paris.
Clément Méric était âgé de 18 ans. L'élève brillant était également un militant proche de l'extrême gauche. Ce matin, des membres du mouvement antifasciste auquel il appartenait se sont joints au rassemblement. Cette jeune femme, qui souhaite garder l'anonymat, militait dans le même syndicat étudiant que le jeune homme.
C'est quelqu'un qui était acteur du mouvement social. Il a été identifié par ses agresseurs comme étant un militant engagé contre l'extrême droite. Et que c'est la raison de sa mort.
Nombreux sont les étudiants à demander que des mesures soient prises contre certains groupuscules d'extrême droite.
Ceux qui aujourd'hui n'appelleront pas à la dissolution des groupuscules d'extrême droite auront une lourde responsabilité dans le fait que la mémoire de Clément soit entachée.
Vers 17h, un peu plus tard dans la journée, Clément décède à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. À l'annonce de sa mort, le parti de gauche organise un rassemblement sur la place Saint-Michel. Simultanément et spontanément dans toute la France, mais aussi à Barcelone, Madrid, Montréal, d'autres foules se regroupent en mémoire de Clément. Plusieurs milliers de personnes se retrouvent à Lyon, Lille, Bordeaux, derrière des banderoles flanquées du visage de la victime, accompagnées de la phrase « ni oubli, ni pardon ». Sur la place Saint-Michel à Paris, la foule est dense. Black bloc au visage recouvert de foulard noir, Reskino bombers et aux chaussures Doc Martens impeccables, Antifa le tout bord, sont rejoints par des centaines d'anonymes, de journalistes et de représentants politiques. Mais l'ambiance n'est pas au front républicain. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon incite ses sympathisants à éviter le Parti Socialiste, coupable selon lui d'amalgame entre extrême gauche et extrême droite. France Inter, présente sur place, raconte l'ambiance tendue du rassemblement.
Eh bien, ce rassemblement qui avait commencé sereinement est clairement en train de s'échauffer. Jusqu'à 18h30, tout était plutôt calme. Et puis, les militants antifascistes venus tout droit du boulevard Haussmann où ils manifestaient sont arrivés place Saint-Michel. Le poing levé et des t-shirts floqués au nom de Clément Méric, deux de ses amis sont montés sur la fontaine pour déployer une banderole. Clément, 5 juin 2013, a jamais l'un des nôtres, sauf qu'il y a 10 minutes a eu lieu la première prise de parole politique, celle d'Alexis Corbière du parti de gauche, huée par une partie des antifascistes qui ne veulent pas de récupération. Voilà, impossible de s'exprimer. Dans le même temps, c'est Anne Hidalgo qui est poussée hors de la place Saint-Michel au cri « Le PS dehors ». La candidate, elle, préfère relativiser.
Bon, vous savez, il y a des groupes un peu excités aussi, hein, mais bon, c'est ainsi. Moi, je suis là pour témoigner de mon attachement aux valeurs de la démocratie.
Sauf qu'elle n'est pas revenue sur la place, un état de tension qui explique peut-être l'absence d'Harlem Désir, toujours attendu à l'heure qu'il est.
Au même moment, sur les lieux de la mort de Clément, c'est une autre responsable politique qui est chahutée, Nathalie Kosciusko-Morizet, alors candidate à la mairie de Paris. Comme elle n'a pas été invitée à se joindre au rassemblement place Saint-Michel, elle décide donc d'organiser le sien, rue Comartin. Tous ses collègues de droite et du centre sont invités à venir se recueillir sur les lieux du drame. L'initiative, jugée indigne par les amis de la victime, est accueillie à coups de sifflet et de huées. Il faut dire que le milieu antifasciste auquel appartenait Clément n'a pas pour les partis politiques un amour inconditionnel. De tradition anarchiste, l'antifascisme français n'aime pas l'organisation, la verticalité, les logiques d'appareil, et rejette souvent ceux qui représentent l'État. Les nombreux groupes qui le composent agissent en parfaite autonomie, réunis par une même volonté, lutter contre l'expansion des groupes d'extrême droite. Son principal outil, des sites internet qui surveillent les groupuscules nationalistes, détaillant leur vocabulaire, leurs organisations, afin de mieux pouvoir lutter contre eux. Mais malgré les efforts des amis de Clément pour empêcher la récupération politique de son décès, les micros se tournent immanquablement vers les représentants des partis politiques. Dès les premières heures qui suivent l'agression, les prises de parole se multiplient. À gauche, la ligne est claire. Condamnation unanime de la violence des groupuscules d'extrême droite et solidarité envers les proches et la famille de Clément. C'est la position de François Hollande, le président de la République.
J'ai appris l'agression dont avait été victime un jeune étudiant. Et tous les éléments conduisent à penser que c'est un groupe de skinheads, sans doute avec un motif politique. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'abord de retrouver ces présumés agresseurs. Et à la suite de l'enquête qui sera faite, toutes les conclusions devront être tirées, y compris par rapport au groupe auquel pourraient appartenir ces violents personnages. Nous ferons en sorte de comprendre ce qui s'est produit, de voir le caractère politique de cette agression et ensuite d'en tirer toutes les conclusions.
À droite, le ton n'est pas le même. Pour le président des Républicains, même si Clément est une victime évidente de la violence de son agresseur, extrême gauche et extrême droite sont arrangés à la même enseigne.
L'UMP, vous le savez, a toujours combattu ceux qui veulent imposer par la terreur leurs idées. Ces groupuscules extrémistes, d'extrême gauche comme d'extrême droite, sont un danger. Nous devons en tirer toutes les conséquences. Et je demande donc au ministre de l'Intérieur de prendre ses responsabilités. Ces groupes extrémistes, dont la seule expression est la violence, doivent être dissous.
Politiquement, un vieux clivage revient donc sur le terrain, celui qui existe entre les partisans des antifascistes et ceux qui considèrent que les extrêmes n'ont pas leur place dans la démocratie, quel que soit leur bord. les premiers, la distinction entre néo-nazis et antifascistes est claire. Les premiers sont coupables d'un discours appelant à la haine envers des personnes à cause de leur identité. Leurs propos sont racistes, antisémites ou homophobes. Et leur passage à l'acte sont arbitraires, s'en prenant aux personnes en fonction de leur simple apparence et appartenance présumée à un groupe. Les antifascistes, quant à eux, s'ils en viennent parfois aux mains lors de rencontres avec des nationalistes, s'en prennent avant tout aux symboles qui représentent les idées ennemies, le fascisme, le racisme et le capitalisme. Une distinction de taille pour les militants de gauche, notamment. À droite, l'idée la plus répandue consiste à penser qu'antifascistes et néo-nazis sont à renvoyer dos à dos puisqu'ils usent tous de la violence pour faire valoir leurs idées lors d'affrontements dans les rues. Un sophisme qu'on a retrouvé d'ailleurs à un autre niveau au cœur du débat pour la dernière présidentielle de la part de tous ceux qui ont mis sur le même plan Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au nom d'un positionnement anti-système dont les racines idéologiques ne sauraient pourtant se confondre. Dans les jours qui suivent la mort du jeune Clément Méric, les manifestations continuent. On organise des marches dans le pays, à Paris, dans le 20e arrondissement, autour des quartiers chers à Clément que sont Ménilmontant et Gambetta. L'heure est au recueillement pour se remettre du choc. Un traumatisme qui renvoie à celui de 1995 avec le meurtre de Brahim Bouaram, marocain de 30 ans, mort noyé dans la Seine après y avoir été poussé par des militants d'extrême droite en marge de la manifestation du Front National du 1er mai. Depuis cet événement tragique, l'extrême droite n'avait pas tué. Some of those among horses are the same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. You're killing in the name of. Killing in the name of. Those who die are justified by wearing the badge of the chosen white. Justify those who die by wearing the badge of the chosen white. The same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. Oh. Killing in the name of. They're killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Those who die by wearing the badge of the chosen white. Those who die are justified by wearing the badge of the chosen white. Justify those who die by wearing the badge of the chosen white. Juin 2013, cinq jours après le décès de Clément Méric, le gouvernement décide d'agir. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault prend la parole à l'Assemblée nationale et il demande la dissolution du groupuscule d'extrême droite coupable d'incitation à la haine.
Nous savons simplement que parmi les auteurs présumés, ils appartiennent à des groupes d'extrême droite. Et c'est sur eux que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'engager la phase contradictoire qui consiste à engager la procédure de dissolution des jeunesses nationalistes révolutionnaires. La même phase contradictoire sera également engagée pour le groupe Troisième Voie et pour tous les groupes et associations aux groupements d'extrême droite contraires aux valeurs et aux lois de la République.
Pour faire valoir l'interdiction, il faut que les groupes correspondent aux critères définis par la loi de 1936 sur les groupes de combat et milices privées. Pour Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, il ne fait aucun doute que Troisième Voie présente une rhétorique d'incitation à la haine. Quant aux jeunesses nationalistes révolutionnaires, leur organisation correspond à ce que la loi qualifie de milice privée. La décision est accueillie de façon mitigée par les camarades de Clément Méric. Si la dissolution a un fort pouvoir symbolique, capable d'avoir un impact sur les activités des groupuscules visés, son efficacité reste limitée. Dissoudre les groupes ne signifie pas dissoudre les individus, comme l'expliquent ses membres de Action antifasciste Paris-Banlieue au micro de France Inter.
Le combat antifasciste, pour certains, il y en a certains qui le pratiquent depuis 10 ans, 20 ans, qui sont ici. Ils n'ont pas attendu que l'État se décide à dissoudre les groupes pour combattre l'extrême droite. Et on n'attend pas forcément que l'État dissoude ces groupes. Après, effectivement, on ne va pas s'en plaindre. Néanmoins, ce n'est pas ça qui stoppera l'extrême droite. Ça va les mettre en difficulté de les dissoudre, mais ça ne va certainement pas affaiblir les modes de pensée d'extrême droite.
Les groupes se réorganisent sous d'autres noms. Ce n'est pas ça qui empêchera le fait qu'il y ait des points de fixation politiques, en l'occurrence sur Paris, le local et d'autres. Sur Lyon, le centre historique de Lyon, devenu un ghetto fasciste où il y a des agressions régulièrement, des commerçants se font attaquer. Donc on attend ce genre de réaction. Si c'est juste de la poudre aux yeux en disant on a dissous toute l'organisation, mais les personnes sont toujours là, les dirigeants sont toujours là, les intellectuels sont toujours là, les lieux de fixation, de rencontres et de sociabilité de l'extrême droite sont toujours là, ils ont gagné. Leurs idées ont pénétré des larges plans de la société française.
Mais dans les milieux nationalistes, la décision fait l'effet d'une bombe. Quelques jours plus tard, Serge Ayoub annonce l'autodissolution de ces deux organisations comme un suicide d'honneur. Pour autant, il prévient, lui et ses troupes, continueront de militer. Le leader de Troisième Voie et des jeunesses nationalistes révolutionnaires déclare au micro de France Inter « Est-ce que j'ai une tête à m'autodissoudre ?» Mais l'État ne se laisse pas attendrir. Et un mois plus tard, Troisième Voie, les JNR et Envie de rêver, l'association qui gère le local, sont interdites par décret. Serge Ayoub fait immédiatement appel de la décision auprès du Conseil d'État, prétextant que ces groupes n'ont pas d'autre vocation que de faire connaître les produits du terroir. Il faudra donc attendre un an pour connaître le résultat. En juillet 2014, le Conseil d'État rend son verdict. La dissolution est légale. C'en est donc fini de Troisième Voie et des jeunesses nationalistes révolutionnaires. Alors que la bataille politique fait rage autour de la mort de Clément Méric, l'enquête de police suit son cours. Le lendemain de l'agression, 7 personnes sont mises en garde à vue, toutes proches de Troisième Voie et des jeunesses nationalistes révolutionnaires. Lors des perquisitions dans leurs appartements, les enquêteurs font des découvertes accablantes. Chez Samuel Dufour, on retrouve une clé USB remplie d'images néo-nazies. Des croix gammées, des aigles nazis, une carte de France recouverte du logo du Front National et 4 photos d'Adolf Hitler, dont une accompagnée du slogan « Nous voulons un Hitler français ». Chez Esteban Morillo, on retrouve 2 points américains. Et c'est lui qui devient le principal suspect dans l'affaire. France 2 en dressait le portrait à l'annonce de sa mise en examen.
Son agresseur présumé se prénomme Esteban. Il est à peine plus âgé que sa victime. Mais en Espagne, son parcours l'amène à côtoyer les mouvances de l'ultra-droite. Tout comme sa petite amie Katia. Le couple vit dans cet immeuble de Saint-Ouen. Leur appartenance à l'ultra-droite ne passait pas inaperçue pour certains voisins.
D'après les témoignages, il ne fait aucun doute, c'est bien Esteban qui a porté le coup fatal à Clément. Et il avouera son geste aux policiers dès son arrestation. Les autres personnes mises en examen, âgées de 17 à 32 ans, sont suspectées d'avoir été présentes pendant la bagarre et d'avoir apporté leur soutien matériel à Esteban. Ce sont ses amis, mais aussi Katia, sa compagne, âgée de 32 ans et arrêtée pour complicité de violence en réunion. C'est elle, oui, qui depuis le magasin a appelé son petit ami en renfort. Dès le lendemain, 3 des 5 suspects sont relâchés sous contrôle judiciaire. pour le procureur de Paris, seul Esteban Morillo et Samuel Dufour méritent de rester en détention provisoire. Le 8 juin, le procureur François Molins révèle en conférence de presse les premiers résultats de l'autopsie et il explique sa décision.
J'ai donc ainsi, que je voulais indiquer, requis l'ouverture de l'information des chefs d'homicide volontaire dès lors qu'ont été recueillis un certain nombre d'indices graves et concordants qui constituent à ce stade des investigations autant d'éléments permettant d'induire une tension homicide et que je vais vous citer. C'est d'abord la force et la violence des coups de poing portés au visage de Clément Méric, c'est-à-dire sur une partie du corps particulièrement exposée, alors que la victime était physiquement beaucoup moins, vous me pardonnerez l'expression, baraquée. Les suspicions de l'usage d'un poing américain. Enfin, la cause de la mort, due à plusieurs coups portés et non pas à la chute consécutive.
Y a-t-il eu usage ou non d'un coup de poing américain? Cet outil en métal qui solidifie les phalanges et peut faire de toute main une arme létale? Ce serait une circonstance aggravante, car le transport et l'usage de cette arme de sixième catégorie est interdit en France. S'il avoue les coups, Esteban Morillo affirme avoir frappé à main nue. D'ailleurs, précise-t-il, il n'avait pas d'arme sur lui puisque ses poings américains ont été saisis par la police lors de la perquisition de son appartement. Mais les différents témoignages le contredisent. Plusieurs personnes indiquent avoir vu enfiler un coup de poing américain argenté avant de se lancer dans la bataille. Lydia, l'une de ses amies, présente au moment des faits, vient elle-même corroborer cette version auprès des policiers. Oui, selon elle, Esteban aurait rangé son arme dans le sac à dos de Samuel avant de rentrer dans la boutique. Une version confirmée par un des employés du magasin. Mais pour l'heure, les résultats de l'autopsie ne permettent pas de le prouver. Malgré des SMS envoyés par Samuel Dufour à l'un de ses amis le soir de l'agression et dans lesquels il se vante d'avoir frappé avec son poing américain, le juge d'instruction considère les preuves insuffisantes. Il ne retient pas l'intention de donner la mort. Autre question qui persiste dans l'enquête, qui est à l'origine du premier coup? Pour y répondre, les enquêteurs saisissent les bandes des caméras de vidéosurveillance du quartier. De chaque côté, on se renvoie à la culpabilité du premier coup porté. Seules les images pourront départager les versions. 3 semaines après les faits, c'est donc une vidéo de caméra surveillance de la RATP située au niveau de la station Havre-Caumartin qui apportera ses lumières. Dans son journal, France 2 en décrit les principales informations.
Sur les bandes, pas de vue globale de la rixe entre skinheads et militants d'extrême gauche. Mais le cadre permet de décrypter les dernières secondes de Clément Méric. À gauche, Esteban Morillo lui tourne le dos. L'affrontement entre les deux groupes a peut-être déjà commencé. Clément Méric se précipite alors vers le skinhead, semble-t-il, pour lui donner un coup. Esteban Morillo se retourne. D'après ses propres dires, il frappe l'étudiant à 2 reprises au visage. Clément Méric s'effondre. Au sol, il ne reçoit aucun coup. Le skinhead s'enfuit avec ses amis. Cette vidéo va dans le sens de la décision du juge qui a mis en examen Esteban Morillo pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Sur les images floues exploitées par la police scientifique, on voit apparaître des passants se promenant tranquillement, les bras chargés de course. À l'arrière-plan, apparaissent des silhouettes en train de se battre. D'après les images, c'est une bagarre générale qui a éclaté. Les antifas en seraient-ils les provocateurs ? Si la vidéo semble pencher pour cette version, les éléments du dossier ne la confirment pas. Esteban Morillo a lui-même avoué aux enquêteurs avoir porté le premier coup. Et d'après le groupe antifasciste, ce sont les skinheads qui sont venus à leur rencontre, alors qu'ils attendaient un peu plus loin dans la rue, devant une église, sur le trottoir. Pour les atteindre, les skinheads ont dû traverser la rue. C'est donc qu'ils ont choisi de les rejoindre. D'ailleurs, les militants antifascistes qui avaient été mis en examen pour violence ont tous été relâchés pour légitime défense. Malgré l'appui des caméras de vidéosurveillance, les circonstances de la rixe restent floues, l'enquête piétine. En juillet 2014, Samuel Dufour est remis en liberté conditionnelle. 2 mois plus tard, c'est Esteban Morillo qui sort de prison.
On revient sur la mort de Clément Méric en juin 2013 à Paris. Eh bien, Esteban Morillo, le principal suspect dans cette affaire qui opposait les skinheads d'extrême droite et les antifascistes, a été remis en liberté. Il sera soumis à un contrôle judiciaire strict qui lui interdit notamment de quitter son département de résidence.
Pendant 2 ans, l'enquête en restera là. En 2015, une nouvelle expertise des blessures de Clément Méric vient appuyer la thèse du poing américain. Au scanner, grâce à de nouvelles méthodes d'analyse, des marques de fracture qui n'avaient pas été remarquées lors de la première autopsie apparaissent. Les os propres du nez ont été cassés d'une façon qui n'aura pas pu être provoquée par un poing nu. Et pour l'expert médico-légal, les marques sur le visage de Clément Méric, des traces régulières de 2 cm sur 6, laissent peu de place au doute. Elles ressemblent fort à celles d'une arme métallique. En mars 2017, 4 ans après les faits, le parquet de Paris demande le renvoi en cour d'assises d'Esteban Morillo et Samuel Dufour pour violence ayant provoqué la mort, sans intention de la donner, en réunion et avec armes. À l'heure où nous parlons, la date du procès n'est pas encore fixée.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à queue nue dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent. Au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune à un côté pointu, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre, ou les 7 maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine, si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tous ceux que je connais, tous ceux que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer, où valsent des brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures. La mer à la montagne à la mer, les journaux en couleur, la fin de la douleur, tous les enfants content. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la mort de Clément Méric. Notre invité Jean-Yves Camus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, vous travaillez pour l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes aussi le directeur de l'Observatoire des Radicalités. Nous sommes presque 5 ans après les faits que nous avons racontés. Quelle trace a laissé cet événement aujourd'hui dans les milieux radicaux de droite comme de gauche?
Je ne suis pas persuadé que l'événement, tant que le procès n'aura pas lieu, ait une actualité si forte que ça, pour tout vous dire. Parce que, et dans le peu de temps qui nous reste, ce qui transparaît tout de même de cette histoire et du récit que vous venez de faire, c'est qu'un garçon de 18 ans est mort pour ce qui, effectivement, pour quelque chose qui est connexe à ses idées, au fond, pour quelque chose d'assez futile, qui est une bagarre de rue, après une rencontre pour acheter en solde une marque de vêtements qui, en elle-même, n'a strictement aucune connotation politique. Je voudrais qu'on prenne la mesure de ce qu'il y a de dérisoire et de monstrueux dans le fait qu'on en arrive à confondre à un moment donné le combat politique, Clément Méric avait des idées, avec enfin, ce fait divers qui est totalement hors de proportion et qui évidemment fait un mort, et qui aussi bousille d'une certaine manière la vie de ceux qui vont passer en cour d'assises, quel que soit le verdict, et qui sont suffisamment jeunes pour avoir encore le temps de trouver une autre voie. Donc, la dimension politique, je l'avoue, elle m'échappe un petit peu. L'antifascisme peut parfaitement s'exercer sans que des jeunes meurent, d'un côté comme de l'autre. Je dis ça parce que il y a de cela maintenant 20 et quelques années, un jeune militant d'extrême droite, Sébastien Desieux, était aussi mort pour une course-poursuite totalement futile avec la police à l'issue d'une manifestation de 100 et quelques personnes. Enfin, tout cela est quand même extrêmement dérisoire par rapport à l'ensemble des problèmes politiques qui se posent aujourd'hui et aux possibilités d'engagement qui existent quand on a des idées libertaires, par ailleurs antifascistes, pour peser sur le cours de la société. Ça n'est qu'un jugement personnel, bien sûr.
Oui, mais alors comment expliquer que ça ait déclenché cette polémique politique qui, pour le coup, était de nature politique? Alors, effectivement, le fait en soi n'est pas forcément politique. Mais ce que ça a déclenché a été très politique. Voilà, il y a eu cet amalgame-là, d'emblée. Donc ça dénote peut-être une crispation de la société.
Non, mais ça dénote une crispation parce qu'effectivement, d'abord, il est fort heureusement très rare que des affrontements entre militants radicaux des deux camps aboutissent à un homicide.
Oui, heureusement.
Voilà, heureusement. Donc un jeune de 18 ans qui meurt dans ces conditions, il est assez normal que ça soulève des réactions des hommes politiques et un certain nombre de crispations. Le second point, c'est qu'on est en 2013 et qu'il y a une sorte d'emballement, j'en reviens à la phrase du début du reportage, autour de la Manif pour tous. La Manif pour tous n'a strictement rien à voir avec tout cela. Le groupe dans lequel les agresseurs présumés étaient impliqués existait avant, se manifestait avant, il se manifestait également par des parades, des manifestations qui étaient des démonstrations de force d'un service d'ordre assez aguerri. Et la mouvance antifasciste, elle existait bien avant la Manif pour tous. Mais il y a eu une sorte d'emballement, parce que subitement on voyait descendre dans la rue des centaines de milliers de personnes qui défendaient un agenda incontestablement de droite, mais qu'il a été, à mon avis, complètement abusif d'assimiler à des militants d'extrême droite, et que, au prétexte qu'à la fin de chaque manifestation contre la loi Taubira, quelques centaines de jeunes proches de l'ultra-droite allaient au contact des policiers, d'ailleurs, pas des militants de l'ultra-gauche. Il y a eu subitement une sorte d'emballement autour de la résurgence du fascisme, alors que la vérité, c'est que depuis 20 ans à peu près, on a, grosso modo, le même étiage de la mouvance, avec des groupes qui changent, certains disparaissent, d'autres naissent, mais on n'a pas une explosion numérique du nombre de militants d'ultra-droite. Simplement, à l'époque, il y a eu effectivement une grosse crispation autour de ces heures répétées, dont les organisateurs de la Manif pour tous n'étaient pas responsables par ailleurs.
Alors, que pesaient ces groupes-là, dont on a tant parlé pendant le récit, Troisième Voie et les jeunesses nationalistes révolutionnaires?
La réponse est simple, rien. Rien. Non, mais il faut voir les choses en face. Sur toutes les photographies des JNR présentes dans les commémorations de Jeanne d'Arc ou dans toute autre manifestation auxquelles elle participait, je me suis livré à un comptage. On a 30 personnes. Alors, on a 30 personnes imposantes, certes. Mais même en admettant qu'elles comptent double, on n'est tout de même pas en face d'un mouvement de masse. La double appartenance JNR Troisième Voie, elle existe. Les gens de Troisième Voie ne sont pas obligatoirement membres du JNR, puisque c'est une sorte de service d'ordre trié sur le volet. Mais tous les gens des JNR sont effectivement des militants de Troisième Voie. Donc, au total, on a quoi? On a quelques centaines de sympathisants de toute la France.
Ça veut dire que la radicalité ou les radicalités sur le terrain constituent un phénomène marginal?
Les radicalités sur le terrain constituent un phénomène marginal pour plusieurs raisons. D'abord parce que la loi est appliquée et que même lorsqu'il n'y a pas dissolution, il y a un suivi constant de nos services de renseignement et de sécurité qui, évidemment, sont là pour appréhender les auteurs de toutes les infractions. Et ensuite, parce que le Front National a, d'une certaine manière, asséché le terreau.
Oui.
À partir du moment où les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, qui veulent s'engager à la droite de la droite, ont un parti politique en face d'eux, pour qui ils peuvent voter, qui leur permet de militer dans le cadre des institutions et de transformer leurs idées en vote, avec l'espérance d'arriver ou de participer au pouvoir. Il y a naturellement des gens qui pensent que c'est tout de même une voie beaucoup plus efficace, puis par ailleurs beaucoup moins risquée, que de militer dans des groupuscules qui végètent.
Alors, est-ce qu'on serait dans une sorte de fantasme par rapport au peur réel ou supposé des groupuscules? On est dans le fantasme?
On n'est pas dans le fantasme, dans la mesure où effectivement il y a des faits divers absolument tragiques, comme dans la décennie 80-90, il y a eu un nombre d'homicides assez élevé en France, avec des gens d'origine étrangère, d'origine immigrée, des gens de couleur, qui mouraient sous les coups de groupes de skinheads, qui souvent d'ailleurs n'étaient pas affiliés à une mouvance politique particulière, mais qui étaient, disons, d'ultra-droite de manière générale. On a vraiment une cartographie de la violence skinhead dans les années 80-90, qui est extrêmement importante dans le Nord-Pas-de-Calais, dans l'Est de la France, en région parisienne. Voilà, il y a beaucoup de faits divers absolument tragiques. Mais, encore une fois, la mouvance d'ultra-droite, tout mouvement confondu, c'est, allez, y compris le second cercle aujourd'hui, 3000 personnes, sans doute.
D'accord, non, mais là-dessus, c'est clair. Simplement, la question que je me pose, c'est savoir pourquoi une telle caisse de résonance jusqu'au plus haut sommet de l'État. François Hollande s'exprime, tout le monde s'exprime.
Parce que c'est le fascisme. Parce que c'est le fascisme qui est en cause. Et d'une certaine manière, c'est le phénomène incompréhensible de la persistance du fascisme dans une époque qui a commencé en 1944-45, où on nous avait dit qu'il était définitivement éradiqué.
Oui.
Alors, naturellement, toute résurgence de ce qui est assimilé au fascisme ou au national-socialisme apparaît comme une monstruosité. D'abord comme une aberration, parce que ça renvoie d'un certain côté à l'incapacité de la démocratie libérale à éradiquer définitivement le phénomène, et ensuite comme une monstruosité, puisque ça renvoie évidemment à ce que le national-socialisme et les mouvements associés ont commis à l'époque où ils étaient au pouvoir. Mais encore une fois, la question c'est, est-ce que la démocratie ne repose pas sur l'acceptation du fait inéluctable qu'une part de radicalité existe à ses marges, qui soit le prix à payer pour qu'elle ne soit pas une dictature douce.
Et qu'elle ne devienne pas majoritaire, ou qu'elle ne grossisse pas aussi.
Et surtout qu'on ne nous enseigne pas systématiquement ce qu'il est bon de penser, de ne pas penser, parce qu'à un moment donné, évidemment, la loi définit des crimes et des délits, c'est parfaitement légitime, mais elle ne doit pas définir de pensée unique.
Alors, on a parlé de ce que représentaient réellement ces groupuscules de radicalité à droite, d'extrême droite. Qu'en est-il pour ce qu'on appelle, parfois, peut-être de façon impropre d'ailleurs, l'ultra-gauche?
Alors, les mouvements antifascistes qui ont été cités, notamment l'action antifasciste Paris-Banlieue, sont engagés aujourd'hui dans ce processus que certains ont appelé la convergence des luttes et qui se manifeste en ce moment même par les différents rassemblements et cortèges qui prennent pour point de départ la réforme du statut de la SNCF et cherche à agréger l'ensemble des mécontentements sociaux qui se manifestent contre le gouvernement d'Édouard Philippe et contre le président Macron, en cherchant, prenons par exemple la manifestation qui aura lieu le 26 mai, à agréger à la fois les soignants, les cheminots, les personnes victimes de discrimination raciale, et on constate d'ailleurs que plusieurs comités issus des mobilisations contre les violences policières en banlieue seront présents dans le cortège de tête, la mobilisation pour Gaza, puisqu'il y aura un sous-cortège de tête Gaza dans le cortège de tête de samedi, et puis, évidemment, les antifascistes. Les antifascistes qui, pour le coup, fidèles à la tradition du mouvement libertaire, considèrent que l'antifascisme, c'est pas simplement faire la chasse sur le terrain à leurs opposants politiques, mais s'inscrire dans la dynamique plus large de ce qu'ils appellent les luttes d'émancipation sociale.
Alors, certains intellectuels disent que le vrai problème qui se pose à nos sociétés contemporaines occidentales, et c'est moins le problème de la décrise économique, la crise pétrolière, pas la crise financière ensuite, que celle de l'identité, de celle de l'obsession identitaire. Alors on a vu pour les groupes d'extrême droite, c'est retrouver l'Occident, ses valeurs, la race blanche. Est-ce que la question, alors parfois c'est le repli, alors moins grave, mais repli nationaliste, la peur de l'Europe, la peur de ce qui peut être supranational, la peur de la perte d'identité. Est-ce que c'est ça le grand défi
auquel on doit faire face? C'est incontestablement un défi qui se pose aussi à l'ensemble des forces politiques. D'ailleurs, les Français, comme beaucoup de peuples européens, sont à la fois attachés à une forme d'organisation européenne qui dépasse le cadre de l'État-nation, mais extrêmement déçus ou extrêmement sceptiques face au creux, j'allais dire, de la définition de l'identité européenne que donne l'Union européenne, qui donne l'impression d'être une machine technocratico-économique qui ne nous dit pas ce que nous sommes. Alors quand on a du mal à définir ce que c'est d'être français, puisque la réalité du fait français a évidemment muté considérablement, ça sert à rien de dire le contraire, et que en même temps, être européen, ça peut quand même pas être uniquement avoir la capacité de traverser aujourd'hui les frontières sans montrer un passeport. Il y a naturellement des tentatives pour se replier sur une définition excluante de l'identité. Mais il va falloir un jour qu'on sorte de ce dilemme qui consiste d'un côté à opposer la vision hérénique d'un monde sans frontières où l'identité n'existe plus, où nous sommes tous citoyens du monde, et puis d'un autre côté les définitions exclusives de l'identité qui se réfugient derrière un passé qui est souvent mythifié pour expliquer que tout ce qui ne participe pas de cette matrice-là ne peut pas accéder à la citoyenneté. On est pris dans un étau dont, si nous ne sortons pas, l'issue politique sera extrêmement conflictuelle.
Quelle est votre mission à l'Observatoire des radicalités? Qu'est-ce que vous faites?
Nous sommes tout simplement un groupe de politistes, de sociologues, d'historiens qui cherchons à décortiquer le fonctionnement, les idées de toutes les formes de radicalité politique ou religieuse qui s'expriment aujourd'hui dans la société française. Nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des militants. Nous essayons d'avoir un regard distancié sur cet objet qui est un objet, pour ma part, de la science politique, puisque c'est mon travail, un objet comme un autre, mais auquel nous avons un rapport extrêmement particulier du fait de l'histoire, qui est un rapport extrêmement passionné et qui nous fait oublier de temps en temps un minimum de règles essentielles de l'observation.
Quel genre ?
Le fait de ne pas faire transparaître dans la manière dont nous traitons ces phénomènes nos opinions personnelles, le fait de ne pas ramener systématiquement toutes les radicalités de droite, pour ce que j'étudie par exemple, au fascisme et au national-socialisme, qui sont à l'évidence des phénomènes historiquement datés, qui se sont exprimés dans un cadre particulier, qui est l'irruption des masses en politique, et qui aujourd'hui, sous la forme que nous avons connue, sont tout simplement inactuelles.
Qu'est-ce que vous pensez de cette facilité de langage? On peut voir ça comme ça, de dire en France, par exemple, il y a l'extrême droite avec le Front National, puis l'extrême gauche avec les Insoumis.
C'est pas une facilité de langage, c'est une représentation de la vie politique qui récuse l'idée selon laquelle les gens se situeraient sur l'échiquier politique de manière linéaire, de la gauche vers la droite, enfin d'ailleurs de la droite vers la gauche, pour aller vers une représentation qu'on appelle représentation en fer à cheval. C'est-à-dire que vous avez des idées politiques qui se disposent comme autour d'un fer à cheval et dont les deux extrémités se rejoignent comme l'extrémité du fer à cheval. Donc finalement, l'extrême gauche et l'extrême droite se ressemblent. Elles se ressemblent parce qu'elles sont populistes. Elles se ressemblent parce qu'elles contestent l'ordre établi. Elles se ressemblent parce qu'elles font appel à une sorte de lien fusionnel entre le chef et les masses. Sauf que, quand on y regarde bien, outre le fait que les filiations idéologiques et politiques et historiques sont singulièrement différentes, on peut tout dire de Jean-Luc Mélenchon, mais certainement pas qu'il prône la préférence nationale ou qu'il ait la même définition de l'identité française que ceux qui la font remonter aux Indo-Européens. Voilà, c'est une histoire de bon sens, tout simplement. Après, ça n'interdit pas la critique, mais qu'au moins elle soit de bonne foi.
Merci infiniment, Jean-Yves Camus. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, je vous l'accorde. On a réussi à dire quand même deux ou trois choses essentielles. Et je vous en remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Clément Méric, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. À la technique aujourd'hui, merci à lui, Antoine Thébault.